Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous parler du travail d'une artiste de Montréal, Natasha Niederstrass, dont le travail, vous allez le voir très vite, touche en partie à la culture populaire. Alors, c'est un travail auquel je me suis intéressé dans la foulée de mes intérêts pour la photographie en art contemporain et pour des artistes comme Corinne Maybots, Angela Strassheim, des artistes que je ne sais pas si vous les connaissez, ils ne sont pas tellement connus malheureusement, mais je m'efforce de les faire connaître parce que ce sont des travaux qui sont très très intéressants sur les rapports entre la photographie, l'art actuel et la scène de crime. Donc l'imaginaire de la scène de crime comme objet spécifique pour la photographie. Alors vous savez qu'il y a dans l'histoire de la photographie un point de rencontre entre le développement de la criminologie scientifique à la fin du 19e siècle et la photographie. C'est un point de rencontre qui est d'ailleurs contemporain de l'invention de la psychanalyse, à laquelle je m'intéresse beaucoup. Point de rencontre qui a intéressé des gens comme Walter Benjamin, par exemple. Il en parle dans son ouvrage sur Baudelaire ou dans La petite histoire de la photographie. Donc, chez Benjamin, il y a cette idée que vont de pair l'invention de la photographie judiciaire, la criminologie moderne et scientifique, notamment avec Alphonse Bertillon, et la modernité au sens de Baudelaire, au sens de Benjamin. C'est-à-dire qu'au fond, pour Benjamin, il y a un changement de paradigme avec l'invention de la criminologie moderne et de l'utilisation de la photographie pour la criminologie. Il y a un changement de paradigme et cette affaire, c'est-à-dire la proximité historique entre science du crime et photographie, est très, très importante pour l'histoire de la photographie. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque les surréalistes s'intéressent à la photographie, en particulier aux photographies de Eugène Hadjet qui faisait des vues de Paris tôt le matin, les surréalistes ont récupéré ce point de rencontre entre scène de crime et photographie comme si il y avait une parité qui était inévitable. Or, toute cette histoire pour Benjamin prend racine dans un contexte où on est en train, pour lui, de redéfinir une modernité à travers, par exemple, l'importance qui est donnée aux faits divers chez Edgar Allan Poe, par exemple, avec le mystère de Marie Roget, qui est un texte que vous connaissez sûrement, qui est célèbre et qui est très, très important pour cette histoire. C'est une modernité où se rencontrent photographie, technique de reproduction mécanisée, pour parler comme Benjamin, faits divers et art de l'interprétation. Alors évidemment, c'est aussi tout le fameux paradigme indiciaire de Carlo Ginzburg qu'on peut aussi inclure comme l'arrière-plan de cette histoire, c'est-à-dire une lecture de la fin du 19e siècle que l'on voit hanté par la question de l'indice qu'il s'agit de déchiffrer, que ce soit au moment où apparaît le roman policier moderne avec Poe et Conan Doyle, essentiellement, ou que ce soit au moment, qui est à peu près le même, où apparaît la psychanalyse de Freud. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, sur Freud, Benjamin et compagnie. Tout ça est assez connu, en fait. Et puis je me dis, bon, c'est l'été, il fait peut-être un peu chaud pour parler de Freud. Ce que je veux plutôt vous indiquer, c'est les grandes lignes d'une œuvre en photographie actuelle, donc dans le travail de Natasha Niederstrass, qui s'inscrit en continuité avec cette histoire-là. Cette continuité, je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de la reconstruire. On a déjà pris un peu de retard dans le colloque, je vais essayer de ne pas déborder. Mais disons que vous me faites confiance et vous pourrez aussi l'imaginer, cette continuité, à partir des images que je vais vous montrer. Donc, Natasha Niederstrass, c'est une artiste qui a une démarche, vous allez voir, qui est assez particulière et qui aborde un certain nombre de problèmes en photographie avec une très, très grande finesse, selon moi. Elle s'intéresse au rapport entre le crime et la démarche de l'artiste, la lecture de l'œuvre comme enquête, les rapports entre photographie et scène de crime qui m'intéressent en particulier. Et je dirais aussi qu'elle s'intéresse à l'iconisation, le devenir icône, si vous voulez, de la femme à travers l'imaginaire populaire du fait divers ou du cinéma d'horreur. Alors, par exemple, je mentionne ce travail-là à titre introductif. Elle a fait, en 2006, une série d'images réalisées à partir des films de slashers. Vous allez les reconnaître, j'imagine. Donc, Halloween, I Spit on Your Grave, mais un peu moins connu peut-être, mais enfin, peut-être pas pour vous. Black Christmas. Donc, des arrêts sur image tirés en très, très grand format, un peu comme s'il s'agissait de tableaux. Alors, ce qui l'intéressait à cette époque-là, bon, vous l'avez peut-être deviné, c'est la figure de la Final Girl. D'ailleurs, le titre de l'exposition, c'était « The Final Girl ». Donc, la photographe a voulu montrer à un moment précis dans chaque film, où on pourrait dire que la logique de la prédation se renverse et où on comprend que le film se met à tourner autour de ce personnage qui devient le centre de l'action pour précipiter le film vers son dénouement. Denis Mellier, tout à l'heure, parlait de la segmentation des figures par rapport à la mémoire d'un genre. Ici, c'est tout à fait ça qui est en jeu. Mais je dirais que c'est aussi la mémoire du film lui-même qui est en jeu, puisque lorsqu'on regarde ces images, on est porté, si on a vu le film, à reconstruire le film dans notre tête pour essayer de retrouver le moment où cette image-là vient s'insérer. Alors, c'est un travail qui est très subtil, mais qui a des effets sur la lecture des films eux-mêmes, puisque lorsqu'on revoit les films après ces images-là, on attend le moment où on tombe pile sur l'image qui a été arrêtée, et du coup, c'est comme si le travail de l'artiste avait créé une ponctuation dans notre rapport au film et dans notre appréhension de la dynamique même des images du film. Bien. Alors, à partir de là, Natasha Niederstrass va prendre une direction, je dirais, qui est complémentaire, quoique assez différente sur le plan visuel, en s'inspirant de faits divers et de la scène de crime comme, je le disais tout à l'heure, comme objet spécifique pour la photographie. Donc, en 2014, c'était à la Galerie Trois Points à Montréal, elle a montré tout un travail inspiré par le meurtre de Marie Gallagher, qui a été assassinée et décapitée au 19e siècle à coups de hache, c'est une histoire sordide, dans Griffintown à Montréal, donc à la fin du 19e siècle. C'est une histoire qui a donné lieu à toute une légende dans Griffintown, parce qu'aujourd'hui, on se plaît à dire encore que Marie Gallagher entre les rues de Griffintown. Donc, c'est dans ce travail qui s'appelait « Déconstruction d'une tragédie », c'est le fantôme de Marie Gallagher qui est le centre de l'exposition. Ça, c'est en fait une image tirée d'une séquence vidéo qui tournait en boucle dans l'exposition et qui montre le corps sans tête de Marie Gallagher, accompagnée par une série de photographies que Natasha Niederstrass appelait les pièces à conviction, qui sont en fait des éléments, je dirais, eux-mêmes fantomatiques, comme si c'était des visions partielles de la scène de crime. Alors, ça n'a pas du tout le statut d'image objective, scientifique. C'est presque des hallucinations. Ça a quelque chose d'onirique au fond. Je les appelle les vues partielles. Voilà. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ce sont des photographies, mais présentés comme des tableaux. D'ailleurs, le format, c'est le format tableau, si je peux dire, et chaque image donne l'impression d'être de la peinture. C'est de la photo qui se prend pour de la peinture. Et d'ailleurs, même lorsqu'on s'approche très, très près de ces images-là, on s'interroge, on se demande si c'est de la photo ou de la peinture, puisque c'est des images qui sont un peu retravaillées. Donc, dans ce projet, la figure féminine qui occupait la place centrale dans The Final Girl est une figure fantomatique qui apparaît au milieu de cette série d'images, les pièces à conviction, comme si de l'histoire de Mary Gallagher, du crime, qui est un crime réel, et de la scène de crime elle-même, il ne devait rester que des vues partielles qui se donnent en même temps comme des images de l'art, c'est-à-dire des images esthétisées. Au fond, ce sont de très belles photographies avec un éclairage qui rappelle presque la luminosité du Caravage. Voilà. Donc, à partir de là, on a un problème. On a un problème parce qu'on se demande quel est au juste l'objet de la photographie. Je me suis posé longtemps la question. Je dois dire que Natasha Niederstrass est une artiste qui me fait travailler pas mal. Quel est au juste l'objet de la photographie? Est-ce qu'il s'agit simplement de faire de belles images à partir d'une histoire absolument sordide, ce qui serait plutôt gênant? Ou est-ce que la photographie, parce qu'elle se donne comme image de l'art, nous fait plutôt réfléchir sur le fait que devant ces images, il y a quelque chose d'occulté? Et s'il y a quelque chose d'occulté, qu'est-ce que c'est? Donc, le projet sur les Final Girls mettait une figure féminine au centre de l'image, je le disais tout à l'heure. Ici, la figure féminine est, disons, décentrée. C'est plus qu'un fantôme qui s'anime sur un écran dans une séquence vidéo qui tourne en boucle. Et puis, il faut souligner aussi un aspect important, selon moi, qui est lié à l'accrochage même de l'exposition. C'est-à-dire que dans l'exposition, il fallait tourner le dos au fantôme de Mary Gallagher pour pouvoir regarder ces images-là. Or, le dispositif de l'exposition, le traitement très esthétisant de ce que j'ai appelé les vues partielles sur la scène de crime, nous font oublier que c'est toujours une femme qui est au centre de tout ça aussi. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est aussi là, selon moi, qu'il y a un point d'inconscient dans ce travail. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un travail qui fait surgir un point d'inconscient. Comme si l'exposition devait nous faire oublier quelque chose pour mieux nous le rappeler. La photographie nous met en face de quelque chose qui nous rappelle que l'image est un écran ou un leurre. Au fond, l'art est ici fait pour nous rappeler qu'on ne voit pas. Là-dessus, je vous invite à aller lire un ouvrage tout à fait excellent du psychanalyste Darianne Leder qui a écrit « Ce que l'art nous empêche de voir ». Ça se lit tout seul, c'est une lecture d'été, si vous voulez. Mais ça, j'ai beaucoup lu le travail de Natasha Niederstrass en fonction de cet ouvrage-là. Dans un travail plus récent encore, intitulé « The Missing Week », Natasha Niederstrass a présenté ce travail à Montréal, qui est inspiré de l'affaire du Dahlia Noir aux États-Unis. Le meurtre d'Elizabeth Short, dont le corps a été retrouvé mutilé et sectionné en deux dans un terrain vague en 1947. C'est une affaire que vous connaissez et qui n'a jamais été résolue, du moins officiellement. Il y a toutes sortes de théories, évidemment, dont la fameuse théorie de Steve O'Dowd, qui est un ancien enquêteur de la police de Los Angeles, qui a écrit tout un livre pour démontrer que l'assassin du Dahlia Noir, c'est son propre père à lui. Quand même, et j'ai pas besoin de parler de Freud, en fait. Freud est toujours là. Voilà, donc dans The Missing Week, Natasha Niederstrass a reconstitué l'itinéraire d'Elizabeth Short durant la semaine qui précède sa disparition. Alors, elle a photographié chaque endroit où quelqu'un a pu témoigner de l'apparition d'Elizabeth Short, et on peut lire sur chaque image un ruban textuel qui est un fragment de témoignage. Donc, The Missing Week reconstitue des lieux, reconstitue un itinéraire. L'œuvre suppose une géographie qui est montrée aussi dans l'exposition, et des archives qui participent également de l'exposition. mais ce sont des archives raturées, trouées. Voilà. Et puis, The Missing Week, c'est aussi une temporalité, il faudrait le dire. C'est la semaine qui manque, littéralement, pleine d'ombre et qui émerge par, par ponction hein, sur les lieux de la disparition d'Elizabeth Short. Elizabeth Short devient une nouvelle figure du fantôme, mais c'est ici la vivante qui est fantomatique. J'aimerais vous montrer, avant de conclure, un autre travail, toujours de Natasha Niederstrass, qui est un travail qui m'apparaît très, très subtil pardon, et tout à fait intéressant. L'œuvre s'intitule « L'affaire de Camden Town », en référence à l'œuvre picturale de Walter Sickert, qui a peint notamment « The Camden Town Murder », un tableau daté de 1908. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Walter Sickert. C'est un peintre qui, au début du 20e siècle, vouait une certaine admiration à Jack l'Éventreur, à qui il était plus ou moins identifié dans un jeu ludique, disons ludique et dangereux, parce qu'il a été suspecté à un moment donné. Vous savez peut-être que cette affaire-là a été reprise par la romancière Patricia Cornwell, qui a écrit aussi un livre pour montrer que Sickert, c'est Jack l'Éventreur. C'est une théorie parmi d'autres. Alors, toujours est-il que, ici, l'artiste a refait, rejoué et recomposé différents tableaux de Sickert qu'elle présente comme des tableaux vivants. Donc, des tableaux vivants, encore là, arrêt sur image, qui redouble l'arrêt sur image de la photographie. Alors, c'est des images qui sont volontairement très, très sombres. L'ombre dans le travail de Natasha Niederstrass est très important. Voilà. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est ce même double effet que j'ai indiqué tout à l'heure à propos des images inspirées par le meurtre de Mary Gallagher, c'est-à-dire que d'une part, ce sont de très belles images, de très belles photographies, je mets ça entre guillemets, d'ailleurs très éloignées de la peinture de Sickert, qui, elle, est une peinture qui est très, très violente, très brutale. Ce sont aussi de très grands formats, donc c'est le format tableau. Mais surtout, chaque image nous donne l'impression que l'image est comme en décalage. Et c'est l'impression qu'on a lorsqu'on est au centre de l'exposition. Ici encore, l'accrochage est très important. L'ensemble était disposé, ça c'était à Occurrence, à Montréal. L'ensemble était disposé de façon, si vous voulez, panoramique, circulaire. Autrement dit, il n'y a pas d'ordre. Et aucune lecture de l'ensemble ne peut décider du sens de la scène. Donc, si on connaît l'œuvre de Sickert, on reconnaît les tableaux de Sickert, mais de la façon dont c'est disposé, et comme l'exposition était appelée « L'affaire de Camden Town » au singulier, on a l'impression que chaque image devrait nous renvoyer à une même scène. Alors, est-ce qu'il s'agit de plusieurs scènes autonomes prises isolément? Ou encore, est-ce qu'il s'agit d'une seule scène que l'on aurait arrangée, mais qui nous apparaîtrait ici, image par image, comme disloquée par rapport à l'ensemble? On est devant quelque chose qui est toujours manquant, au fond, c'est-à-dire que quelque chose manque dans l'image, et qui, dans le cas de l'affaire de Camden Town, serait lié à l'articulation narrative des images par rapport aux autres images. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pour ça que j'en parlais comme d'une scène disloquée, c'est-à-dire que c'est l'articulation narrative qui manque. On ne peut pas dire le commencement ni la fin. On arrive trop tôt ou on arrive trop tard par rapport à ce qui est en train de se passer. Et là, l'artiste nous invite à porter une attention plus particulière qui se reflète sur l'ensemble de son travail, c'est-à-dire que au fond, nous sommes au milieu de ces images, et là, revoyez toutes les images que je vous ai montrées aujourd'hui. Nous sommes au milieu de ces images, pris dans le circuit de notre propre regard, qui est aussi notre propre lecture vis-à-vis de ces images. Ce qui compte, c'est l'itinéraire qu'on fait, nous, comme spectateurs de l'exposition. C'est un itinéraire de lecture. et qui en même temps ne peut que nous forcer à composer avec quelque chose qui est continuellement occulté. Donc, ce sont toujours des vues partielles, des vues tronquées, ce sont des instants d'images fixes qui ne nous donnent jamais toute la scène. Et c'est pour ça que c'est un travail qui rend tout à fait sensible ce que j'appellerais un inconscient visuel. Freud disait que ce qui a été perdu, il faut le construire. Remarquez bien qu'il ne dit pas « reconstruire », il dit qu'il faut le construire, parce que toute construction à propos de ce qui a été, au sens de la psychanalyse, ne peut être élaborée pour la première fois qu'à partir du moment où on en prend acte. C'est-à-dire qu'on élabore qu'après coup, et ainsi de suite. Au moment où on vit les choses, ce n'est pas construit, c'est construit après. Or, dans le travail de Natasha Niederstrass, le fait qu'on nous invite à toujours supposer une scène de crime derrière chaque image, ça nous oblige, un peu malgré nous, à faire jouer, je dirais, des réflexes de narrativité. Parce que c'est une scène de crime, parce que c'est un crime réel, on est porté à vouloir reconstruire ce qu'on voit, on est pris dans un ensemble qu'on est porté à vouloir organiser, au fond. Donc, pourquoi vouloir l'organiser? C'est-à-dire que c'est comme si l'image prenait son sens qu'en fonction de ce qui est hors champ et qui n'est pas montré. Même chose avec, au fond, ça nous renvoie au projet de Final Girl qui allait un peu dans ce sens-là aussi. Or, sur ce point, l'œuvre photographique de Natasha Niederstrass convoque une grande partie de l'histoire de la photographie qui s'est beaucoup constituée à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, comme je le disais tout à l'heure, dans le contexte de la criminologie naissante, à cause précisément de la prétention de la photographie à l'objectivité, à cause de la confiance qu'on avait dans la transparence de la photographie. Or ici, c'est plutôt l'inverse. On est devant un usage de la photographie qui fait écran et qui nous indique que quelque chose reste en dehors de l'image, ce qui, justement, remet en question la confiance que l'on a envers la photographie. On est devant, au fond, non pas une image transparente, au sens judiciaire du terme, on est devant une opacification du dispositif cinématographique lui-même, et c'est justement ça qui est intéressant. Donc, l'art photographique de Natasha Niederstrass, je vais conclure, je l'ai dit tout à l'heure, je vais conclure sur cette phrase, hein, c'est un art qui nous montre qu'on ne voit pas. Par exemple, dans les photographies sur les lieux où Elizabeth Short a été vue pour la dernière fois, le point aveugle de l'image, vous avez vu toutes ces maisons, le motel, etc. Mais le point aveugle de l'image, là où l'image est creusée par une absence, c'est là où Elizabeth Short nous apparaît comme absente de l'image. Voyez? Donc, la dernière photo que je voulais vous montrer, ça c'est vraiment dommage. Mais c'est une photographie qui était insérée dans le travail de Missing Week sur le Dahlia noir. Donc, il y avait ces photographies que je viens de décrire, là, les maisons avec les témoignages, etc. Et il y avait une image, une seule, qui était insérée dans l'exposition, qui était la photographie d'un Dahlia noir sur fond noir. Or, de loin, l'image nous apparaît comme un carré noir. Et c'est le dahlia noir sur fond noir qui était à peine perceptible de loin, qui est, à mon sens, l'image la plus importante de cette exposition. Je n'y avais pas pensé, mais je le dis devant vous. Puis Natacha est ici, je souhaitais lui dire aujourd'hui. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup.